évaluer les offenses.
Mon père, après mûre réflexion, je me décide enfin à vous écrire pour vous pardonner de m'avoir coulé à mon dernier examen, m'écrivait l'une de mes anciennes étudiantes. Je fus stupéfait par la naïveté et sa désinvolture. Je ne comprenais pas pourquoi je devais être pardonné pour un échec qu'elle avait mérité. Je compris alors qu'il y a non seulement de faux pardons, mais aussi de faux motifs de pardonner. Dans des cas semblables, le pardon risque d'être banalisé et utilisé à mauvais escient. D'où la nécessité de bien discerner les circonstances où s'impose le pardon, de celles qui n'ont rien à voir avec cette grande pratique spirituelle.
Offense commise par des personnes aimées.
Le pardon revêt des couleurs et des formes différentes, selon qu'il s'agit de personnes intimes ou de simples étrangers. Qui peut nous blesser plus profondément que les personnes aimées? Avec elles, nous avons tissé des liens d'affection. C'est pourquoi la gravité de la blessure se mesure moins à la gravité objective de l'offense qu'à la grandeur des attentes, que celle-ci soit réaliste ou non. Les cas d'attente démesurées sont nombreux. Ainsi, les enfants idéalisent leurs parents et exigent d'eux une tolérance et un amour inconditionnel. En revanche, la plupart des parents s'attendent à ce que les enfants se conforment parfaitement à leur discipline et réalisent à leur place des rêves qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser dans leur propre vie. De même, l'amour passionnel est fécond en rêves irréalistes. Les conjoints et les amoureux espèrent pouvoir être toujours devinés dans leurs désirs sans avoir à les exprimer. Ils voudraient toujours être compris, aimés, appréciés, sécurisés par la présence constante de leur partenaire. Je vous fais grâce de la liste des attentes et des espoirs implicites entretenus par les amoureux, les parents, les enfants, les sœurs, les frères et les amis. Ce qu'il importe de retenir ici, c'est que le pardon a un rôle indispensable à jouer dans les relations intimes en raison de leur intensité et des nombreuses occasions d'accrochage. Que dire des trahisons? Il n'y a rien d'aussi pénible que d'apprendre que l'on a été trahi par une personne que l'on estime beaucoup. Il y a des manques de loyauté à l'égard des proches qui revêtent des formes plus subtiles, mais non moins froissantes, comme celles du ridicule et du sarcasme. Elles demeurent pénibles à supporter, même pour ceux et celles qui en sont témoins. Sans doute les actes de violence entre personnes qui ont juré de s'aimer comptent parmi les offenses les plus cruelles et les plus déplorables.
Les offenses commises par des étrangers.
Un chauffard vous coupe la voie, un client pressé vole votre place dans le rang à la caisse, un chauffeur d'autobus vous répond avec brusquerie, la téléphoniste vous répond en anglais alors que vous aviez demandé à être servi en français. Sur le coup, vous aurez une légère poussée d'adrénaline, mais vous aurez au fait d'oublier ces impertinences. Après tout, vous vous dites que ce sont des inconnus. L'offense qui vient d'un étranger doit donc être plus sérieuse que cela pour faire perdre la paix intérieure. Elle doit représenter une atteinte à l'intégrité physique, psychologique, sociale ou morale. Considérons par exemple le cas d'un vol par effraction à son domicile. On déplore certes la perte des objets volés, surtout s'il s'agit d'objets précieux en raison de la valeur sentimentale qu'on leur donne. Mais ce qui heurte plus profondément, c'est la prise de conscience de la violation de son territoire. Plus l'offense atteint la personne de près, plus on est bouleversé. Actes violents sur des personnes aimées, attaques à sa réputation, brutalité physique, touchés sexuels, viols, etc. La sécurité personnelle est menacée. Les frontières de la personne violée. On en est en quelque sorte mis à nu et à la merci de l'autre.
Les offenses perdues dans le passé.
Que l'offense provienne d'un être aimé ou d'un pur étranger, il faut toujours se rappeler qu'elle est susceptible de mobiliser les souvenirs et de provoquer une réaction en chaîne. C'est ce qui arriva à un travailleur social qui, en thérapie, me racontait ses multiples difficultés de relation avec ses supérieurs masculins. Fatigué de ses perpétuels conflits avec la direction, il me demanda de l'aider à découvrir la racine de son attitude méfiante à l'endroit de ses chefs. Il en avait longtemps cherché la cause par ses propres efforts d'introspection, mais il avait l'impression de tourner en rond. Je lui demandai alors de revivre sur le champ son sentiment de méfiance, et à partir de là de remonter progressivement dans son passé et de retracer tous les événements où il avait ressenti de la méfiance à l'égard des autorités. À l'âge de 7 ans, après avoir subi une amygdalectomie, il s'était réveillé retrouvé seul et souffrant dans une chambre d'hôpital. Il avait été pris de panique. Son père n'était pas venu le voir à son réveil comme il l'avait promis. Il attendit tout l'après-midi, toute la soirée, mais en vain. De plus, le chirurgien lui avait aussi promis de lui apporter de la crème glacée. Lui non plus ne s'était pas montré. Après avoir beaucoup pleuré, il comprit enfin d'où venait sa méfiance obsessionnelle à l'égard des hommes en situation d'autorité. Il put alors pardonner à son père et à son chirurgien d'avoir manqué à leurs paroles et revivre d'autres conflits du passé avec ses supérieurs pour les désamorcer. L'histoire de cet homme est loin d'être unique. Dans un grand nombre de cas, l'impuissance à pardonner trouve son origine dans de vieilles blessures ou frustrations de l'enfance.